Alors je suis Henrik Terrin, le directeur de l'atelier lyrique de Tourcoing.
L'atelier lyrique propose des saisons complètes depuis très longtemps maintenant, et vous avez réalisé plusieurs saisons dans l'ombre, et maintenant vous êtes la vedette de ces saisons qui s'annoncent dorénavant, c'est ça ?
Exactement. Alors, je travaille à la programmation déjà depuis 2020, mais maintenant j'en ai en effet l'entière responsabilité artistique depuis cette année.
Donc déjà au départ, vous aviez l'idée de comment l'atelier lyrique se projetait dans le temps, et maintenant vous confirmez peut-être vos choix non exprimés en revendiquant des saisons.
Exactement, et puis aussi peut-être avec une fidélité un peu plus assumée avec certains ensembles avec qui on construit les saisons de manière collaborative.
Voilà, donc on a beaucoup connu l'atelier lyrique de Tourcoing du temps de Jean-Claude Malgoire. Évidemment, il a posé des fondations, on va dire, de cette maison. Qu'est-ce qui reste de son héritage et comment maintenant cette programmation évolue vers le futur ?
Alors, Jean-Claude Malgoire était vraiment un précurseur en France, puisque c'est le créateur du premier ensemble indépendant, donc du premier ensemble non permanent en France, la Grande Écurie et la Chambre du Roi, qui a fait tout un travail de redécouverte de répertoire, de création aussi contemporaine, de rejouer aussi certaines œuvres sur instruments d'époque. Et donc, on perpétue cet héritage majeur dans l'histoire de la musique française et européenne, hein, puisque Jean-Claude a vraiment été un des grands précurseurs de l'interprétation historiquement informée, en élargissant à d'autres ensembles, on va dire à ses héritiers, tous ses petits-enfants, j'ai envie de dire. La Grande Écurie était le premier, mais maintenant, aujourd'hui, en France, il y a à peu près 150 ensembles indépendants. Et donc, l'idée, c'est de mettre ces ensembles au cœur de la programmation, comme des héritiers de ce que Jean-Claude Malgoire a initié à Tourcoing.
Donc, est-ce qu'on peut dire que lui, il avait créé une sorte de répertoire et que ce répertoire évolue avec, bien sûr, vos initiatives ?
Alors, il a créé plutôt un modèle de comment faire de la musique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ensembles qui ressemblent à ce modèle, mais qui ont leur personnalité, selon les directeurs artistiques, selon les projets. Mais c'est ce modèle de, à la fois la prise de risque, la recherche musicologique, aller chercher des raretés, aller chercher des instruments d'époque, trouver de nouvelles partitions. C'est vraiment ce côté redécouvreur qu'on va montrer à Tourcoing.
On peut dire que vous avez eu aussi une âme d'archéologue ?
Alors moi, un peu moins que les artistes, mais je m'intéresse quand même à leur travail. Oui, moi je suis toujours très heureux de découvrir, c'était le cas la semaine dernière encore, de redécouvrir des œuvres qui n'ont pas été jouées depuis deux siècles. Personnellement, je trouve ça très émouvant. C'est un peu comme si on découvrait un tableau inconnu d'un grand maître vénitien ou d'un grand maître flamand et que vous le découvriez pour la première fois. Bah, c'est un peu ce qu'on fait en musique et c'est quelque chose de très émouvant, personnellement, je trouve, et que le public aussi apprécie, puisque voilà, c'est comme découvrir un chef-d'œuvre en temps réel.
Alors, des œuvres, bien sûr, en redécouverte, mais aussi des instruments originaux que certains musiciens aiment aller rechercher et travailler d'une certaine manière.
C'est ça, donc la redécouverte d'œuvres peut aussi s'accompagner et s'accompagne très souvent d'une recherche musicologique sur les partitions, donc la façon d'interpréter la musique, mais aussi sur l'organologie, donc les instruments qu'on utilise. Et les ensembles vont chercher les instruments que les compositeurs avaient à leur disposition au moment où ils ont écrit les œuvres. C'est des instruments qui sont vraiment totalement différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous prenez un hautbois de 1650, ça n'a rien à voir avec un hautbois moderne. Le bois n'est pas le même, la perce n'est pas la même, le nombre de clés n'est pas la même, et donc le son n'est pas le même et les couleurs ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que c'est très intéressant de redécouvrir ces œuvres avec ces couleurs faites pour ces musiques.
Est-ce que dans votre réseau ou vos réseaux, peut-être les préciser, il y a cette volonté justement de retourner parfois aux sources des sons ?
Ah oui, c'est un travail important qui est maintenant un écho européen et mondial. Maintenant, c'est ce travail d'interprétation historique. Il a des échos même jusqu'en Asie, aux États-Unis, enfin même dans le monde entier, au Chili, etc. Donc oui, c'est quelque chose maintenant qui s'est très développé, dont Jean-Claude a été un précurseur dans le monde, vraiment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est né à Tourcoing et qui maintenant est devenu courant. Voilà, vous allez en Chine, vous avez même déjà en Chine des gens qui jouent maintenant sur un instrument historique. Et c'est vrai que c'est quand même aussi une spécialité française, grâce à Jean-Claude, je remets le point dessus, puisque ça fait depuis les années 50-60 qu'on le fait. Donc on a vraiment acquis un savoir-faire très fort maintenant. Et là, il y a des pays, les autres pays d'Europe et l'Asie, ils s'y mettent depuis un peu moins longtemps. Mais c'est vrai que maintenant, on a un très grand savoir-faire en France sur ça. qui s'étend sur d'autres répertoires. Au départ, c'était plutôt sur la musique baroque. Maintenant, ça va aussi sur le répertoire romantique, sur le répertoire renaissance, sur le répertoire médiéval. Et c'est un travail à la fois infini et très intéressant. Je compare souvent les instruments aussi aux variétés de tomates. Vous avez la possibilité d'avoir, quand vous allez dans un supermarché, en général, les tomates, elles sont toutes rouges, rondes et pas très bonnes, objectivement. Si vous allez sur un marché, vous avez des variétés de tomates anciennes, elles ne sont pas forcément rouges, elles ne sont pas forcément rondes, mais alors elles ont un goût extraordinaire. Et ben les instruments d'époque, c'est un peu la même chose. C'est pas forcément, ça ne ressemble pas forcément à un hautbois moderne, mais la couleur et le son, ben c'est quelque chose de différent que vous allez après. Si vous apprenez à l'apprécier, vous n'allez plus manger que ça.
Est-ce que cette musique ou ces instruments français qui ont traversé le temps, enfin je dis français, on peut mettre les Italiens aussi dedans bien sûr, est-ce que justement ça, c'est une carte de visite pour un pays au travers de ses ambassades à l'étranger? Est-ce que vous pouvez utiliser cette carte?
Ah oui, les ensembles indépendants qu'on programme à Tourcoing sont beaucoup programmés à l'international, ils ont une belle notoriété, et ils sont demandés justement pour cette spécificité d'archéologue et aussi de qualité interprétative. C'est des artistes merveilleux qui jouent ces œuvres avec un brio génial, et donc qui fait qu'ils sont très demandés à l'étranger.
Et en région, donc, quels seraient vos partenaires, je pense, partenaires orchestre, bien sûr?
Alors, on a nos 6 ensembles en résidence. Donc, on a Les Siècles, l'orchestre symphonique voilà, qui est en résidence à l'atelier lyrique de Tourcoing. On a 3 ensembles de musique ancienne, l'ensemble Emiolia, la Grande Écurie et la Chambre du Roi, l'orchestre historique de Jean-Claude Malgloire, et l'ensemble Il Caravaggio, dirigé par Camille Delaforge. On a le chœur Aedes, qui est un magnifique ensemble vocal basé en région également, et la compagnie Miroirs étendus, qui est un ensemble spécialisé sur la création contemporaine.
Et donc, vous, votre rôle, vous êtes presque le chef d'orchestre d'une saison où vous allez chercher des partenaires pour nourrir le public de choses originales, souvent.
Oui, alors j'alimente aussi les artistes avec des idées ou des souhaits personnels. Alors, ce n'est pas forcément des souhaits, mais c'est en tout cas j'émets des pistes d'intérêt que les artistes vont souvent suivre ou pas, mais en tout cas, voilà, je leur suggère par moment d'aller chercher dans tel ou tel domaine. Et après, c'est un savant équilibre entre trouver un équilibre sur la saison entre la variété des répertoires, la variété des formats, pour que le public, en effet, ait une saison assez représentative du courant des ensembles indépendants. Dans les 6 ensembles que je vous ai cités, vous avez vu, on va quand même de la musique ancienne jusqu'à la musique contemporaine. C'est pour pas aussi être figé sur une seule époque et essayer d'avoir une variété de répertoires qui soit quand même représentative aussi de la musique dans toute son histoire.
Ces ensembles indépendants, on peut dire qu'ils ont une certaine forme d'énergie différente d'orchestres classiques, par exemple?
Alors, ça dépend des orchestres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens dans les ensembles indépendants, ils savent pourquoi ils viennent et ils sont contents d'être là, parce qu'ils ont le choix, ils ont la liberté d'aller d'un ensemble à l'autre. Donc en tout cas, quand ils sont là, c'est qu'ils ont fait une démarche et qu'ils sont déjà convaincus du projet artistique qui est porté par l'ensemble, parce qu'ils sont là.
Et donc le lieu Atelier Lyrique de Tourcoing travaille avec d'autres partenaires, je parle de lieux d'accueil, qui peuvent permettre une tournée pour ces orchestres.
Tout à fait. Donc, on a un réseau très important au niveau national, avec des lieux comme à Paris, le Théâtre des Champs-Élysées ou l'Opéra Comique. Mais on travaille aussi avec tous les opéras en région, Rennes, Avignon, Reims, Bordeaux, Lyon, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et on a aussi, on s'inscrit aussi dans un réseau international assez important avec des festivals prestigieux, pas mal de salles de concert en Belgique, puisqu'on est frontalier. Mais voilà, on est dans un réseau aussi qui est assez international.
Qu'est-ce qui vous étonne encore en termes de création musicale?
Déjà, la création contemporaine. Moi, je suis toujours friand de découvrir de nouvelles œuvres composées aujourd'hui. C'est le cas. Cette année, on a créé une œuvre d'Otman Nouati, à qui on avait déjà commandé un opéra avec la coopérative. Moi, je suis toujours très, très intrigué de réécouter les œuvres que je ne connais pas. Voilà. Et aussi les redécouvertes. C'était le cas avec l'Atalia de Gasparini, de revivre des œuvres qui n'ont pas été réécoutées depuis 3 siècles. C'est toujours très émouvant. Après, sur des œuvres du répertoire très connues, c'est toujours aussi très, très intéressant d'écouter une interprétation d'un ensemble qui va avoir fait un travail extraordinaire sur l'interprétation, sur le phrasé, et de découvrir ce que l'ensemble a travaillé pendant, a cheminé pendant plusieurs années pour arriver à ce résultat, c'est aussi, je ne m'en lasse pas. Donc en fait, j'ai envie de vous dire à peu près tout ce, qui, tout ce qu'on programme, je suis toujours très heureux. Voilà, là, on vient de faire la Boréade avec Anoti Temporis, ils se sont plongés dans les partitions, etc. Et c'est une œuvre qui reste connue, même si peu jouée de Rameau, mais c'est toujours un régal de la réécouter, interprétée par, avec cette vision.
Donc quand vous êtes convaincu, c'est plus facile par rapport au public d'être convaincant.
J'espère, en tout cas. Oui, c'est sûr que je suis passionné. Je trouve qu'on a une chance, enfin j'ai une chance extraordinaire de pouvoir programmer et vivre tous ces concerts et ces soirées d'opéra. Et c'est vrai que j'espère que pouvoir transmettre cette passion au plus grand nombre, au public mélomane, mais aussi aux enfants, aux néophytes, vraiment, et leur faire aimer toutes ces belles créations des œuvres de l'esprit.
Alors pour le public qui ne serait jamais venu à l'atelier lyrique de Tourcoing, peut-être qu'on pourrait présenter le lieu et donner quelques clés d'accès de la programmation pour qu'il puisse venir à un moment donné où d'un seul coup il va se dire « Ah, là, je reviendrai ».
Alors le lieu, alors on a différents lieux, mais le lieu principal, ça reste le théâtre municipal à Tourcoing, qui est un théâtre ouvrier, donc assez facile d'accès, c'est plutôt vraiment un opéra populaire. Donc il ne faut pas déjà avoir peur de venir, parce que c'est vraiment très, comment dire, très bon enfant, l'ambiance est plutôt très bon enfant, le public est très sympathique, c'est vraiment un public de supporters pour les artistes, donc il y a quand même une ambiance générale déjà qui est plutôt très, très sympa. Ensuite, moi j'aime bien aussi encourager les gens, quand ils ne connaissent rien à la musique classique, souvent de commencer par les œuvres les anciennes. En général, la musique ancienne, la musique baroque par exemple, elle évoque souvent des choses, parce que c'est souvent des danses, etc. Et c'est assez facile d'accès. Et après, plus vous avez d'habitude d'écouter de la musique, plus vous pouvez avancer dans le temps, jusqu'à la création contemporaine, puisque l'histoire de la musique, c'est ça aussi. Hein, c'est, la musique n'a fait qu'évoluer dans le temps et s'enrichir de ce qu'il y avait précédemment. Donc c'est toujours intéressant de commencer par ce qu'il y a de plus ancien et d'aller progressivement dans le temps. Donc moi je dis toujours, commencer par Jean-Sébastien Bach, c'est un fondamental. Tous les jazzmen adorent. Enfin voilà, et en général, voilà, c'est quelque chose qui est super. Même par la musique renaissance, et en général ça plaît beaucoup, c'est assez facile d'accès. Et après vous pouvez progresser. Et après, moi j'invite toujours aussi les gens à venir découvrir la création, il y a toujours des belles surprises, il y a des œuvres. Là, l'œuvre qu'on avait faite avec Otman Nouati, il y avait beaucoup de musique électro dedans, et ça parlait beaucoup à un public jeune notamment, qui avait fait ses références culturelles en tête, et Otman, son langage musical, parle énormément à la jeunesse. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire, tiens, je vais tenter quelque chose que je ne connais pas.
Voilà, et pour la saison, il y a beaucoup de possibilités. Est-ce qu'en termes de tarifs, ça reste possible pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent ?
Oui, on a une politique tarifaire vraiment attractive à Tourcoing. On est sur un territoire voilà, qui n'est pas forcément le plus aisé économiquement, donc nos tarifs sont adaptés aussi à notre population. Et je pense qu'on est une des maisons d'opéra les plus démocratiques de France.
Et donc, on peut réserver en ligne, c'est plus facile ?
Internet, bien sûr, le site internet marche bien. On a un logiciel de billetterie très performant. Et après, on a deux personnes aussi à la billetterie qui peuvent répondre à vos appels s'il y a des questions. Mais normalement, le site est très bien fait et c'est très clair. Les plans sont en ligne, on peut réserver notre place exactement dans le théâtre où on veut. C'est assez simple.